Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tête chercheuse, aujourd'hui avec Marion Fontaine. Elle est historienne et pendant les grandes mobilisations contre la loi travail, elle nous a résumé l'histoire de la classe ouvrière française dans le cadre de l'émission « Un autre jour est possible ». Je vous propose ce matin de la réécouter. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire la distinction entre la classe ouvrière et le monde ouvrier en France ?
Oui, alors les deux notions, elles ont deux sens qui ne sont pas tout à fait équivalents. Et si on remonte aux grands ancêtres, aux grands théoriciens de la pensée du monde ouvrier, et on peut penser bien sûr à Karl Marx lui-même faisait la différence. C'est-à-dire que on peut distinguer en gros le monde ouvrier en tant que réalité sociale, en tant que réalité sociologique. En ce sens-là, ça regroupe le groupe social qui est né avec les débuts de l'industrialisation au XIXe siècle et dont la caractéristique est qu'il travaille dans les usines. Donc ça, c'est une réalité sociologique. Et Marx distinguait d'autre part la notion de classe ouvrière. La classe ouvrière, c'est le groupe ouvrier en tant qu'il a conscience de son unité, donc de faire partie d'un ensemble qui est distinct des autres, et notamment distinct du patronat, de la bourgeoisie, et en tant aussi, ça c'est toute la pensée socialiste qui met en avant cela, en tant qu'il a un rôle moteur à jouer dans l'histoire. Donc les deux notions ne sont pas les mêmes, et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, la question, elle est très largement posée. Personne ne peut dire qu'il n'y a plus de monde ouvrier en France, quand ça représente encore un peu moins d'un quart de la population active. On ne peut pas dire que les ouvriers ont disparu. En revanche, ce qui a disparu, ou ce qui est au moins profondément en crise, c'est la notion de classe ouvrière, c'est-à-dire à la fois ce qui fait unité, ce qui porte l'identité du groupe, les institutions, les partis, les représentations, et en même temps le fait que ce groupe a conscience de jouer un rôle pas seulement pour le passé, mais aussi pour le présent et pour l'avenir.
Alors, comment s'est constitué ce groupe ? À partir de quel moment on parle de classe ouvrière en France ?
Alors, la France a la particularité de, par rapport à d'autres pays, on peut penser notamment à la Grande-Bretagne, où l'industrialisation démarre dès la fin du XVIIIe siècle, et un processus extrêmement brutal. Je pense qu'on n'a pas idée, enfin il faut peut-être regarder la Chine aujourd'hui pour avoir une petite idée de la brutalité du processus de l'industrialisation. Ce sont des communautés rurales, des modes de vie tout entiers qui sont déstructurés et des masses paysannes qui vont vers les usines et avec des conditions de vie au départ qui sont absolument effroyables. Bon, l'historien britannique E.P. Thompson, dans son livre « La formation de la classe ouvrière anglaise » insiste bien sur la très grande, l'extrême difficulté des conditions de vie de ces premières générations ouvrières.
Et pourtant, elles étaient portées par le progrès.
Mais on voit bien en Chine aujourd'hui que le progrès, du moins dans un premier temps, n'est pas forcément synonyme d'amélioration des conditions de vie.
Ou du moins d'une promesse d'une meilleure vie.
D'une promesse d'une meilleure vie, c'est pas tellement ça que vivent, ils ont peu parlé, ces ouvriers des premières générations. On peut penser qu'ils n'avaient pas vraiment l'idée de promesse d'une meilleure condition de vie, mais au contraire d'une profonde dislocation de leur mode de vie antérieur, d'une véritable agression. Bon, du fait, par exemple, que pour eux, au départ, les machines ne sont pas vécues comme des instruments de progrès, mais des instruments d'asservissement, de déqualification, donc dans un processus qui n'est pas sans rapport, peut-être la brutalité en moins, avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un processus qui, au départ, pour les ouvriers, je pense, n'est pas vécu comme synonyme de progrès. On voit la même chose en France, à partir du 19e siècle, c'est beaucoup plus lent en France.
Et pourquoi d'ailleurs ?
Parce que la France, d'abord rentre plus tardivement dans l'industrialisation, c'est aussi d'une certaine manière une volonté politique. C'est-à-dire que la France, et ça se voit bien avec la Troisième République française, se veut d'abord une nation rurale et a du mal à penser le monde ouvrier, n'encourage pas la paysannerie à déserter les champs pour aller dans les usines. Donc, la France a eu plus de mal avec ce monde ouvrier. Elle a eu aussi beaucoup plus de mal à le former. La différence, si on reprend la comparaison avec l'Angleterre, c'est que en Angleterre, une grande partie du monde ouvrier vient d'Angleterre ou d'Écosse ou d'Irlande. En France, étant donné qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre disponible, très vite, on fait appel à deux catégories dont on a besoin, les femmes et les immigrés. L'une des particularités de la classe ouvrière française ou du monde ouvrier français, particularité qu'elle partage avec des pays américains, c'est d'être très largement une classe ouvrière faite d'immigrés. Et cela, pas seulement depuis les 30 ou 40 dernières années, mais depuis, j'ai envie de dire, quasiment sa constitution. Donc ce monde ouvrier français, on le voit naître dans les années 1820, dans les années 1830, dans les usines textiles de la région lyonnaise, par exemple, les fameux ouvriers de la soie, les canuts, dans les mines de charbon, à Anzin, dans le nord de la France, à Saint-Étienne, qui donneront bientôt matière au roman d'Émile Zola. Et comme le monde ouvrier britannique, c'est conditions de vie sont au départ extrêmement difficiles. Bon, toute une série de médecins, d'experts sociaux s'intéressent assez vite à ce qui paraît au départ extrêmement étrange, à ce qui fait très peur aussi, et observent ces ouvriers comme on observerait aujourd'hui des animaux. C'est-à-dire déplore chez eux des modes de vie complètement déstructurés, une espérance de vie qui ne dépasse pas dans un certain nombre de cas 35 ans. Ce monde ouvrier, il est vécu comme quelque chose d'abord d'antinomique à la civilisation, de barbare. Après l'une des premières révoltes des ouvriers de la soie des canuts lyonnais dans les années 1830, un journaliste conservateur écrit une phrase qui là encore n'est pas sans avoir certaines résonances actuelles. Il dit « Les barbares ne sont plus dans le Caucase, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. » Traduisez, les barbares ne sont plus dans le lointain, en Russie, en Asie, ils sont désormais dans nos banlieues ouvrières. Donc le monde ouvrier, il est d'abord vécu sous l'angle de la barbarie, de l'animalité et de quelque chose d'extrêmement effrayant. Et alors tout le travail, si l'on peut dire, de ce qu'on appelle au XIXe siècle, avec des termes différents, le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, ça va être un travail, bon, évidemment, matériel, politique. C'est-à-dire de parvenir à organiser, à faire en sorte que les ouvriers s'organisent pour peser. Ce que le monde ouvrier apprend, c'est enfin, ce qui est une leçon en général en histoire sociale, c'est qu'on ne pèse pas tout seul, on pèse ensemble. Ça va être aussi, on ne le dit pas assez, c'est je pense quelque chose de très important, tout un travail en quelque sorte de requalification symbolique. C'est-à-dire de dire que non, l'ouvrier, ça n'est pas le barbare, ça n'est pas l'animal, c'est au contraire la classe sociale qui est porteuse d'avenir, c'est la classe sociale universelle, dit joliment Jaurès, c'est-à-dire celle par qui la modernité, le progrès et finalement une société meilleure pourra advenir. Donc c'est tout le travail symbolique du 19e siècle qu'on voit en France, qu'on voit en Grande-Bretagne, c'est-à-dire une opération aussi, on pourrait dire, de, on va employer un néologisme affreux, de dignification du monde ouvrier. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui ont été longtemps considérés comme des parias ou comme des animaux soient considérés au contraire comme des sujets, et quels sujets, du processus révolutionnaire. Et évidemment, tout ça se consolide tout au long de toutes les pensées socialistes qui fleurissent tout au long du 19e siècle et se structurent à la fin du 19e siècle dans le cadre des premiers syndicats ouvriers. La CGT naît en 1895, dans le cadre aussi de ce qu'on appelle, avant 1914, au choix, les partis socialistes, les partis ouvriers, qui entendent désormais être les représentants de cette nouvelle classe sociale.
Avant de parler carrément des partis des travailleurs.
Partis des travailleurs, ils se définissent d'ailleurs eux-mêmes de manière différente. Pour eux, parti socialiste, parti ouvrier, parti des travailleurs, c'est désigner la même réalité, en tous les cas les partis du progrès, et les partis qui sont censés, dans le cadre de la lutte des classes telle que l'a définie de manière canonique Marx, qui sont censés porter, non seulement, ça je le répète, c'est important, les intérêts d'une classe sociale, mais beaucoup plus largement, le progrès. sont en général des paysans qui sont chassés par la difficulté des conditions de vie dans le monde rural vers les usines. Est-ce qu'ils choisissent ce mode de vie un petit peu comme aujourd'hui on choisirait un métier? C'est extrêmement compliqué. Enfin, si on prend l'exemple de l'Angleterre, une fois encore, en France, c'est un peu moins brutal, mais en Angleterre, il est bien certain qu'ils ne choisissent pas. C'est-à-dire que c'est plutôt le processus de concentration des terres agricoles qui oblige à une diminution de la main-d'œuvre, qui pousse les ouvriers à venir. Bon, il y a aussi cette idée... Alors plus tard dans le 19e siècle, que effectivement, enfin, il faut bien se rappeler aussi que la condition de vie des paysans au 19e siècle n'est pas ce qu'on pourrait appeler quelque chose d'extrêmement satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi l'idée peut-être d'une amélioration des conditions de vie, alors qui effectivement entraîne des populations, alors dans des mouvements extrêmement différents. Ça peut être, si on prend un cas comme celui que je connais bien, comme celui des mines du Nord, les mineurs des mines du Nord, ce sont des paysans des alentours, mais aussi, par exemple, des paysans belges qui ne vivent pas très bien en Belgique, qui viennent travailler là. Une fois encore, je ne suis pas sûre qu'ils choisissent de devenir mineurs ou de devenir ouvriers. C'est aussi tout simplement pour eux le moyen d'échapper à la misère. Bon, ensuite, dans un deuxième temps, il y a fixation de ces familles ouvrières et difficulté, là pour le coup, au moins pour le 19e siècle, à échapper à ce sort-là. Mais on voit bien que si on parle des migrants hors frontières nationales, ce sont aussi évidemment toujours les populations les plus pauvres qui vont vers les usines. Je le répète, les Belges, les Italiens, les Polonais, les coloniaux, toutes ces populations qui espèrent un avenir meilleur, quitte à déchanter, je pense, de manière considérable en arrivant dans les usines du 19e siècle. Dont, alors, on l'a tous un peu appris à l'école, mais je pense qu'une fois encore, on mesure mal ce qu'est être ouvrier au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire, on parle des journées de 12-14 heures, on parle de salaires extrêmement faibles, on parle, c'est le magnifique poème d'Hugo sur les caves de Lille, on parle d'enfants qui travaillent. Non pas que les enfants ne travaillaient pas au champ, mais ce sont des travaux extrêmement durs, extrêmement répétitifs. On parle d'une maîtrise qui, à l'époque, exerce un pouvoir sans aucune espèce de discussion. Et surtout, des vies à la merci du moindre incident de la vie. Your life on trophy, I know your face. Crash landing, no man standing. Can't believe what I just put my hand in. A little blood, a little brain, a little how come. No seatbelt, how to be, how dumb. Fantastic speeds on the runway. Wrong place, wrong time in a long way. Can't breathe, can't see, mind groggy. Last memories seem so jolly. Split seconds compress my lifetime. Men and machinery hand me a lifeline. I don't want these machines in my bloodstream. Pure steel now floating through my bloodstream. Out for the count, coma to coma. Alien amongst my own persona. The tracking device of real heavy metal types. The tracking device of real heavy metal life.
Comment le mouvement des ouvriers va-t-il créer une classe ouvrière ?
Alors c'est un processus extrêmement long dont il faut remarquer par ailleurs qu'il n'est pas le fait des seuls ouvriers. Bon, ça se voit très bien en France où alors on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de députés ou quasiment pas de députés ouvriers, de députés d'origine ouvrière à l'Assemblée nationale, ce qui est vrai. Il faut rappeler que le mouvement socialiste français du 19e siècle, c'est en fait deux choses qui vont réussir presque par miracle à se rejoindre. C'est d'abord une pensée d'intellectuels, les grands socialistes du 19e siècle, Saint-Simon, Fourier, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du 19e siècle, Jaurès et autres, ne sont pas des ouvriers. Ce sont plutôt des classes moyennes ou des classes moyennes intellectuelles.
Vous voulez dire par là, Marion Fontaine, que l'image d'un ouvrier qui aurait représenté sa classe à l'Assemblée n'a jamais existé?
Ça a toujours été extrêmement, du moins oui, en France, extrêmement compliqué. Surtout en France, c'est-à-dire en France, ce qui est devenu le Parti ouvrier, le Parti socialiste, puis le Parti socialiste et le Parti communiste, se sont voulus des partis très politiques, des partis aussi très interclassistes, si on peut dire, des partis aussi qui ont eu des relations souvent très compliquées avec l'autre branche du mouvement ouvrier qui est le mouvement syndical. En fait, le mouvement ouvrier, c'est deux choses. Alors aujourd'hui, on le voit mal puisque c'est complètement disjoint, mais pendant longtemps, du moins, ça a été deux choses. Ce sont d'abord des partis, des formations politiques et d'autre part, des sections, des cellules, des organisations syndicales, peu importe. L'une des particularités françaises, c'est que en France, les deux ont eu des relations extrêmement compliqué. Enfin, pour prendre un exemple, le Parti socialiste à la fin du 19e siècle et la CGT ont des relations très compliquées parce que tous les deux veulent améliorer la situation ouvrière, tous les deux veulent faire la révolution, mais ils n'ont pas du tout la même manière de voir la révolution. La CGT, à l'époque, rêve, si l'on peut dire, d'une révolution par le bas, d'une révolution, pour faire un énorme anachronisme, façon Nuit debout, quoi, donc d'une révolution qui parte des ouvriers eux-mêmes. Les socialistes, eux, entendent conquérir le pouvoir d'État. Donc c'est pas du tout la même chose.
Et ça n'a pas changé depuis.
Je pense, oui. À l'inverse, si on prend le cas britannique, par exemple, mais c'est vrai aussi en Allemagne, partis et syndicats sont beaucoup plus consubstantiellement liés. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, par exemple, le parti travailliste, c'est d'abord l'émanation politique des syndicats. Donc ce qui explique que beaucoup de députés travaillistes d'avant 1914 sont des syndicalistes, donc sont forcément des ouvriers. Alors qu'en France, comme la SFIO le Parti Socialiste a des relations beaucoup plus compliquées avec le monde syndical, finalement il se débrouille tout seul et il y a moins d'ouvriers dans ses rangs. Il y en a ce qu'on appelle à l'époque les députés mineurs, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois syndicalistes et anciens ouvriers mineurs, syndicalistes, devenus députés socialistes. Mais ils sont en nette minorité dans le personnel politique.
Mais vous, en tant qu'historienne, Marion Fontaine, pour vous, la naissance de la classe ouvrière, elle commence avec la constitution des syndicats ou déjà avec les partis politiques?
Les deux, je pense que ce sont deux facettes d'une même, médaille, parce que les deux ont vocation justement
à installer
cette classe ouvrière et à porter ce qui est au cœur vraiment de la construction de la classe ouvrière, à porter son unité. Donc les uns et les autres le portent. Alors ils le portent de manière différente. La CGT le porte en inventant des modes d'action. Les ouvriers, pas seulement français d'ailleurs, mais les ouvriers inventent la grève dans le dernier tiers du 19e siècle. Ils inventent la manifestation, ils inventent l'idée qu'il y a une culture ouvrière singulière, une culture professionnelle dont ils peuvent être fiers.
Donc ils imposent à minima des droits.
Ils imposent d'abord des manières de se battre, et ensuite,
ils gagnent ses droits.
Peu à peu, ils conquièrent ses droits. Alors ça, davantage sur le plan politique, ça va être plutôt la tâche du mouvement socialiste, du Parti socialiste, de constituer le petit aiguillon pour élaborer, dès avant 1914, les tout débuts d'une législation sociale, les premiers représentants ouvriers, les délégués mineurs en 1890, les premières lois instituant des réductions sur le temps de travail, limitant le travail des femmes et des enfants en 1892, et en 1910, par exemple, la première loi sur les retraites ouvrières et paysannes, que la CGT appelle méchamment la retraite pour les morts, parce que les droits à la retraite sont ouverts à l'époque à partir de 65 ans, étant donné l'espérance de vie du monde ouvrier, autant dire qu'aucun ouvrier ne peut espérer ou pratiquement pas y accéder. Mais c'est déjà un essai d'offrir davantage de sécurisation de la condition ouvrière.
Est-ce que déjà à l'époque, cette classe ouvrière constituée représente un poids politique ? Est-ce que le pouvoir politique est obligé de tenir compte de ces revendications, de ces combats aussi ?
De plus en plus. C'est-à-dire que à partir du moment où le mouvement socialiste fait son apparition à la Chambre des députés, donc dans les années 1880-1990, et à partir du moment où il grossit, le Parti socialiste est avant 1914 déjà l'un des plus gros partis de la Chambre des députés. Il n'est pas en mesure d'accéder au pouvoir, mais il est l'un des plus gros. Oui, il doit compter avec. Et on voit bien d'ailleurs que la pression du mouvement ouvrier, elle se voit au fait que peu à peu, je le répète, les premières lois sont votées en 1910 et voté aussi le premier livre du Code du travail, que les républicains conservateurs avaient longtemps refusé parce que pour eux, il ne pouvait pas y avoir une législation particulière pour les ouvriers. Il fallait une législation pour tout le monde et pas une législation qui protège seulement les ouvriers, et qu'on finit par mettre en place. Donc dès avant 1914, ça commence à se mettre en place, mais c'est vrai que le poids du mouvement ouvrier et par conséquent l'avancée de ses droits va s'accélérer considérablement en fait après la Première Guerre mondiale. Alors pour deux raisons, d'abord parce que le monde ouvrier grossit énormément. L'industrialisation de la France s'accélère. C'est à ce moment-là que Renault s'installe à Boulogne-Billancourt, qu'on voit naître les grandes usines sidérurgiques, chimiques dans la banlieue parisienne. On a oublié aujourd'hui que du Stade de France à l'ensemble de la banlieue nord, la banlieue parisienne a longtemps été une banlieue industrielle, pleine d'usines. Il y a beaucoup de peintures qui le montrent. Donc d'abord, ce monde ouvrier, il grossit. Et ensuite, ce monde ouvrier, il va, à partir de 1920, être représenté non plus par un, mais par deux partis qui vont passer un certain temps et un temps certain à se disputer, c'est-à-dire le Parti socialiste et le Parti communiste. Désormais, il y a deux manières de représenter le monde ouvrier, Parti socialiste et Parti communiste. Ce qui va au moins avoir un avantage, c'est-à-dire que les deux vont en quelque sorte se faire concurrence et pousser également à avancer, disons, dans la représentation du monde ouvrier. Bon, l'acteur dont la place devient prépondérante et dont la transformation est absolument spectaculaire dans les années 1930, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste
parce qu'il est internationaliste déjà, parce qu'il est porté par un mouvement international.
Parce qu'il est porté par un mouvement internationaliste, parce qu'il est porté, avec tous les problèmes que ça pose, mais on s'en aperçoit pas tellement à l'époque, parce qu'il est porté par un modèle, par l'idée que en Union soviétique, la classe ouvrière est parvenue au pouvoir. Alors peu importe qu'aujourd'hui on sache bien que c'est absolument faux. Le Parti communiste peut se targuer d'être le parti qui peut avoir comme modèle un pays où prétendument les ouvriers sont au pouvoir. Donc ça joue beaucoup dans l'avancée du Parti communiste. Ce qui joue aussi beaucoup, on le dit moins, mais c'est important, c'est que finalement, entre la génération des jeunes militants communistes, ils sont très jeunes, ces militants communistes, dans les années 20, 30, ils ont 25, 30 ans, c'est beaucoup de jeunes hommes très, très radicaux à l'époque, ils vont rencontrer les aspirations de la nouvelle classe ouvrière des banlieues parisiennes. Et finalement, les deux vont réussir à fusionner. Ils vont devenir les porteurs de cette nouvelle classe ouvrière qui est davantage dans les grandes usines, donc qui peut se regrouper plus facilement, qui peut bloquer les choses plus facilement. Enfin, si vous mettez toutes les usines aéronautiques, automobiles en grève, vous avez des chances quand même de bloquer plus facilement. Et donc, peu à peu, le Parti communiste, alors ça se voit surtout à partir du milieu des années 30, commence à pouvoir se targuer d'être, comme il va commencer à s'appeler, le parti de la classe ouvrière, c'est-à-dire le représentant par excellence de la classe ouvrière.
Est-ce à ce moment-là que le terme, que l'expression classe ouvrière fait son apparition dans l'univers français ?
Oh, elle était déjà présente, depuis le 19e siècle, mais c'est sans doute avec les années 30 qu'elle acquiert
une réalité sociale.
Une réalité sociale et pour deux ou trois décennies, une place symbolique extrêmement importante. C'est-à-dire que entre, on va dire, les années 30 et les années 60, la classe ouvrière est va peu à peu être à son apogée numérique, à son apogée politique. Il ne faut pas oublier quand même que le Parti communiste, à la fin, enfin, en 1945, est... il adore aussi s'appeler comme cela, le premier parti de France. Et la classe ouvrière française est aussi à son apogée, ça je pense que c'est extrêmement important, symbolique. C'est-à-dire que c'est sans doute le Parti communiste qui va porter le plus haut et le plus loin cette idée d'un héroïsme ouvrier, de l'ouvrier héros de la production, et donc de l'ouvrier héros et conquérant du monde moderne, devant lequel tout le monde doit plier, et devant lequel, par exemple, les intellectuels du Parti communiste, le Parti communiste est resté très français en sens, il y a plein d'intellectuels dans ses rangs, les intellectuels du Parti communiste doivent se plier, doivent s'incliner. Ce qui est important, c'est très intéressant quand on compare par rapport à aujourd'hui, ce qui est important dans le Parti communiste, c'est d'être ouvrier. Il vaut beaucoup mieux être ouvrier dans le Parti communiste que devenir, par exemple, des classes moyennes. C'est la véritable noblesse au sein du Parti communiste. Et c'est vrai que, en termes d'ascension sociale ou de méritocratie politique, le Parti communiste va jouer un rôle certain, c'est-à-dire qu'il va forger ses propres élites venues du monde ouvrier. Alors, elle va sortir de la Deuxième Guerre mondiale dans une situation assez paradoxale. D'un côté, sans doute n'a-t-elle jamais été aussi héroïsée, aussi admirée qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. D'abord parce que les ouvriers ont pu apparaître avec certaines grèves très emblématiques. Je pense notamment à la grève des mineurs de 1941 comme l'une des forces sociales vives de la résistance, l'une des forces sociales qui n'aurait pas trahi. Alors qu'à l'inverse, la bourgeoisie française est accusée d'avoir trahi durant l'occupation, la classe ouvrière sort d'abord comme la classe qui, elle, aurait été du côté de la résistance. Deuxième chose, il est bien évident qu'on a énormément besoin des ouvriers à la libération. Reconstruire le pays. La France est exsangue. Et il y a notamment des besoins énergétiques extrêmement importants. Absolument tout est à reconstruire. Donc, les ouvriers sont mis à l'honneur, notamment certaines corporations ouvrières. On pense, par exemple, évidemment aux mineurs. Là aussi, on l'a beaucoup oublié, puisqu'aujourd'hui, le charbon, ça fait figure d'énergie du passé. Mais en 1945, on ne peut pas fonctionner sans charbon. Il n'y a pas de centrale nucléaire, évidemment. Il n'y a pas de pétrole, où il y en a beaucoup moins. On demande aux mineurs de se lancer dans la bataille du charbon. C'est intéressant, d'ailleurs. Après la guerre contre l'ennemi, les mineurs sont invités à être désormais les soldats de la production et donc à lancer la bataille pour la modernisation économique de la France. Donc sur le plan symbolique, sur le plan politique, les ouvriers français sont absolument, j'ai envie de dire, sans doute au sommet.
Et sur le point de vue strictement structurel, est-ce qu'on a toujours le même schéma, les syndicats, les deux partis, le Parti socialiste, le Parti communiste, qu'est-ce qui a évolué ?
On a toujours le même schéma, sauf que déséquilibre des forces s'est accentué. C'est-à-dire que là aussi, pour des raisons liées à la résistance, liées au fait que le Parti communiste peut se targuer d'être le petit frère du parti qui a vaincu l'Allemagne nazie sur le front de l'Est, parce qu'aussi le Parti communiste a été l'un des fers de lance de la résistance. Non, sans être le parti des fusillés à lui tout seul, comme il le prétend. Mais disons que le Parti communiste est sans doute le grand vainqueur politique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il écrase... ou du moins il domine beaucoup plus son rival socialiste que ça n'était le cas dans les années 30. Non, ce qui ne veut pas dire que les socialistes arrêtent de représenter le monde ouvrier. C'est d'ailleurs ça qui rend leurs relations si difficiles. Dans le nord de la France, par exemple, les communistes représentent les ouvriers, les socialistes représentent les ouvriers. Donc il y a aussi une bataille pour savoir qui représente le mieux les ouvriers, mais jamais les socialistes dans les années 40 ou 50 dirait qu'il ne représente pas les ouvriers. C'est pas l'idée, les communistes sont les ouvriers, les socialistes sont les classes moyennes. C'est chacun veut représenter les ouvriers, ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées. Bon, ce qui rend aussi les choses très compliquées, si on aborde des questions beaucoup plus terre-à-terre, mais fondamentales, c'est que le monde ouvrier français sort aussi de la Seconde Guerre mondiale complètement épuisé physiquement. Épuisé par les privations, épuisé aussi parce que la bataille du charbon ou les batailles de la production, bah, faut être clair, hein, c'est 48 heures par semaine, travail du dimanche, et dans des usines ou dans des mines qui n'ont pas été modernisées, on sait par exemple très bien que les plus grosses... les cas de silicose les plus nombreux, la silicose c'est cette maladie qui touche les poumons des mineurs de charbon, qui bloque les alvéoles des poumons et qui est absolument... on ne peut pas guérir de la silicose. On sait très bien que les cas les plus nombreux de silicose, ils sont survenus pour les ouvriers qui ont travaillé entre 40 et 1950. C'est-à-dire que c'est aussi des conditions de vie très dures. Alors on a quelquefois l'impression, à force d'idéaliser les Trente Glorieuses aujourd'hui, qu'on a sauté quasiment sans transition de la Seconde Guerre mondiale à la prospérité, c'est faux, notamment pour le monde ouvrier. Les années 1950, pour les ouvriers notamment, ce sont aussi des années, alors pas forcément de misère, mais au moins des années extrêmement dures matériellement, et où il n'est pas du tout question d'accès à la société de consommation, comme ça sera le cas un peu plus tard. Donc c'est le paradoxe d'un monde à la fois symboliquement extrêmement important, qui vit pourtant dans des conditions matérielles encore extrêmement précaires, et en plus un monde qui en proie à des tensions sociales. Après la grande période d'unité de la Seconde Guerre mondiale, l'entrée dans la guerre froide se traduit, on ne le dit pas souvent, mais se traduit aussi par des grèves ouvrières extrêmement violentes, des grèves dont il faut remarquer que ce sont aussi des luttes fratricides, puisque d'un côté les socialistes sont au pouvoir, de l'autre côté c'est les communistes qui encouragent à la grève, et des grèves, on pense aux grèves de 47-48, qui sont d'une rare violence. D'un côté, certains syndicalistes CGT des mineurs raconté il y a quelques années qu'il n'avait pas rendu toutes les armes de la résistance. Donc il n'est pas impossible que des armes se baladent dans les rangs des grévistes en 47-48. Et de l'autre, en 47-48, c'est pour finir l'armée qui intervient pour réinvestir les cités minières et les puits, et donc dans de véritables batailles. Donc c'est aussi cette fin des années 40, ce début des années 50, ça n'a rien d'un contexte calme et pacifique. Bon, ce qui permet aussi, je pense, on a l'habitude très souvent aujourd'hui de dire les Trente Glorieuses, c'était très bien, tout le monde était prospère, tout le monde était heureux et tout le monde s'entendait bien. Et après les années 70, c'est la catastrophe. Bon, le début au moins des Trente Glorieuses est loin d'être aussi lumineux et paisible qu'on le dit souvent.
Et la littérature est là d'ailleurs pour nous le rappeler. Mmh. Alors, est-ce que l'unité va continuer quand même malgré les différences idéologiques ?
Ah, c'est une question très intéressante, parce que peut-être qu'on a eu un peu tendance à surestimer un petit peu l'unité de la classe ouvrière dans les années 50-60, parce que vous faites bien de faire remarquer que... pour aller là aussi contre cette idée un peu convenue aujourd'hui qui voudrait qu'avant tous les mineurs étaient communistes, tous les ouvriers étaient communistes, et qu'aujourd'hui tous les ouvriers votent Front National, deux affirmations qui sont aussi fausses l'une que l'autre, si on s'attaque pour commencer à la première, oui, il y a des ouvriers communistes, il y a des ouvriers socialistes, il y a des ouvriers aussi, on l'oublie un peu facilement, qui sont conservateurs, il y a des ouvriers gaullistes. On sait par exemple que parmi les descendants des migrants polonais, et Dieu sait que la France a accueilli des migrants polonais par dizaines de milliers, il y a un catholicisme extrêmement fort qui fait qu'une partie des ouvriers peuvent voter à droite. Il y a aussi effectivement des tensions même dans les aspirations de ces ouvriers. Alors des tensions qui au fur et à mesure de la modernisation économique d'ailleurs vont devenir de plus en plus criantes, c'est-à-dire il y a à la fois... une fierté ouvrière, une fierté d'être d'être moderne. Je pense que pas un ouvrier dans les années 60 se serait reconnu ou aurait admis qu'il était quelque chose d'archaïque et bon à rejeter dans un passé lointain. Beaucoup d'ouvriers sont effectivement conscients de faire œuvre utile, œuvre très dure. Il faut quand même le rappeler, travailler à la chaîne chez Renault, travailler dans les usines, ça n'a rien d'amusant, mais œuvre utile. Mmh. En même temps, il y a, et de plus en plus chez eux, la volonté que leurs enfants fassent autre chose. Et ils espèrent que, par l'école, par d'autres voies, leurs enfants pourront faire autre chose. Donc dès les années 50, le monde ouvrier français est en fait tout à fait partagé entre une fierté ouvrière pour lui-même et l'aspiration, au moins pour ses enfants, à ce qu'ils puissent faire autre chose.
Est-ce qu'ils ont un poids politique? Est-ce qu'on se bat, on se dispute les voix de cette classe ouvrière?
Ah oui, jusqu'aux années 70 au moins, oui, c'est un électorat extrêmement important. Alors les ouvriers, ils pèsent deux fois. Ils pèsent d'abord par leur poids électoral. Bon, au maximum de leur influence, dans les années 60, ils représentent à peu près 40% de la population active. Donc quasiment la moitié, ce qui veut dire qu'électoralement parlant, ils peuvent faire basculer une élection. Donc ils sont très importants. Alors évidemment, le Parti communiste essaie de les conserver le plus possible autour de lui, mais les autres, y compris aussi les gaullistes, cherchent aussi à attirer les ouvriers. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que les ouvriers sont capables de peser aussi par la grève.
Bon, alors, donc, sans doute, de bloquer l'activité économique.
De bloquer l'activité. Bon, c'est surtout à partir en fait de 1936 où on a vu que effectivement, quand les ouvriers s'arrêtaient véritablement de travailler dans les usines, effectivement, ça durait 3 semaines, 4 semaines, mais à la fin, le patronat était obligé de céder puisque. Donc, il y a aussi cette idée que le monde ouvrier peut peser en arrêtant, pas seulement en manifestant tous les jours, mais en bloquant tout simplement le processus de production. Alors sans doute à partir de la fin des années 50, avec une accélération dans les années 60 et jusqu'au début des années 70. Bon, d'abord parce que effectivement, ce sont après, en gros, on peut dire que les années 50 sont encore très largement des années de reconstruction, mais qu'à l'inverse, les années 60 et disons jusqu'au milieu des années 70 sont des années de modernisation, de prospérité.
Et on verra aussi d'acquis sociaux.
Sont aussi des années d'acquis sociaux importants. C'est aussi le dernier grand moment d'industrialisation en France, avec un développement notamment d'industrie dans des zones qui n'en avaient pas beaucoup jusque-là. La Normandie, la Bretagne, Moulinex, Chantelle vont s'installer en Normandie. Donc la classe ouvrière, elle continue à grossir. Et effectivement, il y a toute une série de mesures. Bon, par exemple, l'adoption du salaire minimum à partir de 1950, les effets progressifs de la sécurité sociale qui rentre en vigueur en 1945, mais dont la généralisation est très lente, qui vont contribuer d'abord à stabiliser ce monde ouvrier. On peut dire que toute la tension de la condition ouvrière pendant très longtemps, ça a été de lutter contre une précarité. Alors une précarité qui, à l'époque, veut dire que le moindre accident de la vie peut vous faire basculer dans la misère. À partir des années 1950, bon, avec les transferts sociaux, avec l'instauration du salaire minimum, avec aussi le fait qu'on est en situation de quasi-plein emploi, les ouvriers sortent ou du moins sortent pour partie de l'insécurité et peuvent commencer à goûter aux fruits de la croissance. Bon, ça, on a des éléments très clairs qui nous le disent, c'est-à-dire qu'on peut voir très bien, à partir de la fin des années 50, l'équipement des ménages ouvriers progresser d'abord en télévision, ensuite en lave-linge, réfrigérateur, en voiture. On voit aussi que c'est véritablement avec les années 60 que les ouvriers commencent à partir en vacances. Bon, sans doute les congés payés datent-ils de 1936, mais en réalité les ouvriers ne partent quasiment pas en 36-37. C'est vraiment à partir des années 60 que, avec le camping, avec d'autres choses, les ouvriers partent en vacances. Ce qui inquiète énormément une partie des leaders du mouvement ouvrier. cette intégration des ouvriers dans la société de consommation que beaucoup de représentants socialistes, de représentants communistes, de représentants syndicaux voient, hein, ils en sont très très conscients.
Et certains l'approuvent parce que ça fait autant de travail d'assurer, parce qu'il faut continuer justement à produire toute cette nouvelle consommation.
Ça fait autant de travail assuré, en même temps certains craignent. Il y a des textes très intéressants chez des socialistes ou même chez ce qui va devenir la CFDT. Ce qu'ils craignent en même temps, c'est que ces ouvriers consommateurs perdent, si l'on peut dire, de leur combativité, ne rêvent plus finalement que d'acquérir qui une télévision, qui un réfrigérateur, qui une machine à laver, et finalement que plus ils deviennent consommateurs, moins ils se font révolutionnaires. Bon, ce qui d'ailleurs...
Bravo, Marion Fontaine, j'attendais le moment où vous allez dire ils vont s'embourgeoiser, mais vous ne l'avez pas dit, mais on l'a compris.
Oui, c'est bien ça. Et effectivement, d'ailleurs...
Et tant mieux, moi j'aurais tendance à dire et tant mieux.
Ah bah de toute façon, il n'y a pas... effectivement, il n'y a guère que le Parti communiste dans les années 50 à pouvoir oser affirmer que la classe ouvrière se paupérise. Bien entendu, elle ne se paupérise pas. Au contraire, effectivement, elle sort de la plus grande insécurité. Et évidemment, tant mieux. Et encore, ce processus est-il reste-t-il partiel? C'est-à-dire, on a quelquefois tendance à considérer que l'inégalité des statuts, des salaires est une donnée très contemporaine. En réalité, bon, les ouvriers sortent avec des rythmes extrêmement variables de la pauvreté. Ça dépend du type d'entreprise dans lequel vous travaillez, évidemment, grosses entreprises ou petites entreprises. Ça dépend du fait que vous ayez deux salaires ou non. Ça dépend des revenus, des transferts sociaux, des allocations, etc. Donc c'est une progression variable qui est moins rapide que dans d'autres groupes, mais c'est une progression quand même. Et évidemment, bon, sauf les purs esprits révolutionnaires, c'est évidemment quelque chose qui ne peut que qu'on ne peut estimer que positif.
Mais vous, avec le recul d'une historienne, Marion Fontaine, que dites-vous? Vous dites que c'est plutôt bien parce que ça les consolide pour demander plus de droits, pour avoir plus d'assises, le fait qu'ils aient plus de moyens, hein, d'être en plus acteurs, d'être acteurs dans la machine économique, mais être aussi acteurs dans la société de consommation. Ou vous dites au contraire que parce qu'ils commencent à rentrer dans cette société de consommation, ils vont avoir tendance à préserver leurs acquis et donc à faire quelques compromis avec
Pense que globalement, bon, toujours si on en revient aux lectures d'E.P. Thompson, je pense que de toute façon, tout ce qui permet des êtres humains, ouvriers ou pas, de vivre mieux est de toute façon toujours mieux que ce qui les conduit à vivre moins mal. Donc, que les ouvriers vivent mieux, je pense qu'évidemment, c'est un des très grands acquis des années 60-70, que ça n'empêche d'ailleurs pas, du moins dans un premier temps, la combativité ouvrière, puisque finalement le plus grand mouvement de grève que la France ait jamais connu, plus fort que 1936, c'est 1968. Donc c'est un monde ouvrier qui est alors au sommet de sa puissance et qui, là, effectivement, conquiert toute une série de nouvelles avancées. En fait, si on regarde bien ces avancées, notamment législatives, elles vont se poursuivre quasiment jusqu'au milieu des années 70. Il y a des avancées en matière de congés, troisième, quatrième semaine de congés payés. Il y a des avancées en matière d'augmentation de salaire régulière. C'est à ce moment-là aussi que tous les ouvriers sont mensualisés. Donc ils ne sont plus payés à la semaine, mais ils sont payés au mois. Il y a aussi de vraies avancées en matière de sécurité au travail, de médecine du travail. On progresse beaucoup. Donc ce monde ouvrier, il est jusqu'au milieu des années 70 parce qu'il est nombreux, parce qu'il est solide, parce qu'il y a plein emploi, et c'est quand même la raison la plus importante, il est capable non seulement de revendiquer, mais d'obtenir effectivement satisfaction sur ses revendications, et de manière intéressante, pas simplement sur des revendications très quantitatives, mais aussi sur des revendications liées... à ce que la CFDT et d'autres appellent dans les années 70 la qualité de la vie. Bon, quelqu'un qui perçoit par exemple très bien à la fois le contenu de la culture ouvrière et la manière dont elle change avec la société de consommation, c'est le sociologue britannique Richard Hogarth, qui est décédé il y a maintenant 2 ans, et qui, dans son livre magnifique, traduit en français sous le titre « La culture du pauvre », qui paraît en France en 1957, montre bien à la fois ce qui fait qu'il existe une culture ouvrière, pas la culture d'autres classes sociales, et en même temps il montre bien comment elle se transforme. Hogarth a notamment des passages très bien, très drôles aussi, sur le rôle que joue la nouvelle presse illustrée, le rôle que joue la chanson de variété. On pourrait très bien transférer les analyses d'Hogarth aujourd'hui au rôle, des émissions, d'un certain nombre d'émissions de télévision, des réseaux sociaux. Ce que montre Hogarth est de manière très intéressante, je pense, de manière peut-être moins idéologique et plus fine que certains Français, c'est que cette culture ouvrière, elle est aussi en permanence en transformation.
Alors, parlons maintenant de l'exception française ou de ce qui fait que la France est un cas particulier dans ce vaste mouvement international. Je rappelle par exemple, Marion Fontaine, que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Fin d'un monde ouvrier » qui revient sur une des catastrophes minières les plus meurtrières. C'était en 1974 à Liévin, et en 1974, c'était aussi l'année où on décide qu'on n'allait plus ramener d'immigrés pour ce monde ouvrier. Donc deux signaux qui nous rappellent d'une part que la France a fait appel à des immigrés, qu'il y a eu beaucoup d'immigrés qui sont venus et que ça risquait de devenir un problème. Qu'est-ce qui se passe en 1974 ?
Alors en 1974, il se passe plein de choses en somme. Alors il se passe d'abord que si on se place là pour le coup sur une échelle internationale et mondiale. Bon, il se passe que l'essoufflement de la croissance des pays industrialisés, qui en réalité était déjà sensible depuis quelques années, devient patent avec le premier choc pétrolier en octobre 1973, qui augmente considérablement les prix du pétrole et donc déclenche un ralentissement d'économie. Bon, c'est à partir de ce moment-là qu'on serait rentré dans une crise. Je pense pas que le terme crise, parce qu'une crise qui dure 40 ans, le terme n'a évidemment aucune signification. Disons qu'on rentre dans un changement de modèle économique marqué à la fois par un ralentissement de la croissance économique, par le fait aussi que la concurrence d'un certain nombre de nouveaux pays industrialisés, la Corée, Singapour, et bientôt la Chine et l'Inde devient de plus en plus patente. Donc on rentre dans une crise de la société industrielle. C'est pas simplement, je pense que ce qui se passe à partir de 1974, c'est pas simplement une crise économique, c'est une crise de la société industrielle. Alors effectivement, en même temps, on sait très bien que les crises de ce genre, elles n'ont pas, les contemporains ne la sentent pas ou n'en sentent pas toute la portée immédiatement. Donc effectivement, en 1974, on prend un certain nombre de mesures. On décide de l'arrêt de l'immigration de travail de manière provisoire. À l'époque, on peut penser avant d'y faire de nouveaux recours. La France a toujours beaucoup fonctionné comme ça. C'est pas la première fois en 1974 qu'on arrête l'immigration. Ça s'était déjà passé dans les années 30, et à vrai dire pour la même raison. C'est-à-dire qu'en gros, une fois encore, comme la France n'a pas assez d'ouvriers autochtones, elle n'en a jamais eu, la tactique a toujours été, en période de reconstruction, années 1920, années 1950-60, on fait appel aux migrants. Parce que de toute façon, et une immigration organisée, dans le cadre des Polonais, c'est organisé directement avec le gouvernement de Pologne. Dans le cadre, par exemple, des Marocains, qui arrivent nombreux à travailler dans les mines, c'est organisé directement avec le nouvel État marocain. Donc, on fait venir des immigrés jusqu'à ce que, années 30 dans un premier cas, années 70, on constate que... on décide qu'il faut stopper les vannes. Bon, il y a aussi quelque chose de très, alors qui est pas nouveau, qui n'en est pas pour autant réjouissant. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure que le monde ouvrier se stabilise dans les années 60-70. On aurait dû dire que ça n'est vrai que pour une partie du monde ouvrier et que l'une des parties du monde ouvrier qui se stabilise moins ou beaucoup plus difficilement, ce sont les migrants. Dans les mines, on le voit bien, c'est-à-dire que dans les mines, en fait, en principe, les mineurs sont... encadré par ce qu'on appelle le statut du mineur, qui est voté en 1946, qui fixe tous les salaires, les congés, et qui est extrêmement protecteur pour les ouvriers. Les ouvriers marocains qui sont recrutés par les compagnies minières à partir des années 60 ne ressortent pas du statut de mineur. Donc ils n'ont pas du tout le même degré de protection, et eux ont déjà encore des contrats intérimaires qui fait qu'on peut les renvoyer beaucoup plus facilement. Donc finalement, ce que va révéler aussi le milieu des années 70, c'est le fait que en gros, la couverture de prospérité qu'on pouvait apercevoir auparavant, elle devient plus... On s'aperçoit qu'elle déguise et qu'elle a toujours déguisé de vraies différences de statut. Bon, par ailleurs, on rentre dans une situation économique qui change considérablement. Bon, ce qu'on voit avec la catastrophe minière de Liévin le 27 décembre 1974, c'est aussi que l'industrie charbonnière est en train de disparaître. Ce qui frappe, c'est que à partir des années 60, et ça s'accélère dans les années 70, ce sont désormais des secteurs industriels qui vont disparaître.
La classe ouvrière française, une histoire en cours, point d'interrogation, avec Marion Fontaine. Si vous voulez réécouter cette émission, la partager, la podcaster et la garder, une seule adresse, c'est la même, franceculture.fr. Tête chercheuse est une émission réalisée par Thomas Duterre. J'espère que vous allez passer un excellent week-end d'été. Merci d'être sur France Culture.